Le débat du jour. François Bernard.
Bonsoir, merci de nous accueillir à l'écoute de Radio France Internationale. En France, quelques universités sont partiellement ou complètement bloquées. Le nouveau mode d'admission dans ces facultés a cristallisé la colère, mais la contestation s'est élargie à d'autres exigences, davantage de moyens, davantage d'égalité, davantage de perspectives. On a assisté au débordement de certains, des casseurs, à la réticence d'autres qui veulent travailler. L'intervention de la police sur certains campus a débloqué la situation, mais a exacerbé les tensions. Les autorités se disent prêtes à la médiation et les examens sont en suspens. Alors se pose aujourd'hui la question de savoir si dans les universités, le malaise est passager ou si la crise est profonde. On va en parler avec deux invités que je vous présente tout de suite. Je commence avec vous, Claudio Galderisi. Vous êtes professeur de langue et littérature de la France médiévale. Vous êtes président d'une association qui a pour nom Qualité de la science française. Bonsoir, Claudio Galderisi.
Bonsoir.
Et puis Julien Fretel est lui professeur de sciences politiques à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Bonsoir à vous, Julien Fretel.
Bonsoir. RFI.
Alors, qu'est-ce qui exprime l'agitation dans les universités françaises, selon vous ? Pourquoi l'université est-elle agitée, Claudio Galderisi ?
Je crois que mon collègue et mon interlocuteur saura l'expliquer mieux que moi. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions. Il me semble qu'il y avait dans votre présentation déjà un mot qui pouvait éclairer en partie. Il ne s'agit pas ici de faire de la polémique. Quelques universités. Nous ne savons pas bien ce que ce mouvement qui est réel, qui est important, mesure en réalité. Ni le nombre, ni l'intensité, ni la typologie de revendications. Il y a bien sûr en ligne de mire et en perspective la question de la loi orientation et réussite des étudiants, dite orientation et réussite des étudiants. Il y a d'autres choses également, mais il me semble difficile pour le moment de pouvoir affirmer ce que cela représente ou ne représente pas. Je tiens cependant à souligner une chose, je suis très attaché pour ma part à la représentativité donc aux élections. Il y a des élections qui ont lieu tous les 4 ou 5 ans qui permettent aux étudiants, aux enseignants-chercheurs, aux chercheurs d'être représentés au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, dit CNESER. Et dans ces élections, les étudiants peuvent se manifester, voter, choisissent leurs représentants, l'UNEF, la FAGE et d'autres organisations, d'autres associations d'étudiants, parce qu'il ne s'agit pas de syndicats à proprement parler, mais d'associations. Et je constate, je ne peux pas ne pas constater que la FAGE, qui est aujourd'hui la première association représentative des étudiants français, n'est pas dans ce mouvement et est globalement assez favorable aux perspectives qu'inspire la réforme de loi orientation réussite des
D'accord.
étudiants.
L'expression d'une minorité, donc, vous diriez. Julien Fretel, comment vous exprimez-vous cette agitation dans les universités ?
Bon, je pense qu'en l'état, rechercher le niveau de représentativité, essayer de sous-peser ce que valent en nombre, en force, en esprit aussi de contestation les étudiants par rapport à l'ensemble des étudiants est compliqué. Mmh. Voilà, c'est un petit peu tôt. Mon interlocuteur parlait des instances représentatives. Il est très attaché aux élections. Alors, ça peut être un débat aussi sans fin, dans la mesure où, dans mon université, il y a eu des élections. Un président a été élu sur un programme, et des conseils centraux se sont prononcés à plusieurs reprises contre Parcoursup et la loi Auré. Bon. Donc, je pense que dans tous les cas, d'une certaine façon, la démocratie est respectée, mais il y a des désaccords. Et c'est sur ces désaccords qu'il faut réfléchir.
Alors, vous avez prononcé le mot qui fait mal en ce moment, Parcoursup. On peut être expliquer justement ce qui est à la racine du mouvement, parce que c'est ça, hein, c'est cette contestation, c'est ce nouveau système d'admission à l'université. Rapidement, Claudio Galderisi, comment vous le décririez ?
D'abord, il faut partir de ce qui s'est produit il y a un an et demi, l'échec de la plateforme admission qui existait auparavant, admission post-bac, APB. Échec parce que d'une part il y a eu des étudiants qui n'ont pas été admis et qui étaient admis à travers la procédure aberrante du tirage au sort que je crois nul ne peut soutenir. ni moi, ni le collègue qui est en face de moi. On a beau être interlocuteur sur ce point, je crois qu'il y a un accord. Et le Parcoursup, qu'il est difficile de définir dans les détails parce qu'il y a des recoins de l'algorithme, comme on dit, qui ne sont pas connus de tous et pas complètement maîtrisés encore. Mais je crois que c'est une possibilité offerte également aux étudiants, qui apparemment s'en sont saisis d'un point de vue statistique, de choisir d'une autre manière leur orientation. La réussite ou l'échec de Parcoursup, les deux sont possibles, va se mesurer sur la capacité des équipes pédagogiques à examiner les dossiers d'admission et à pouvoir réellement ou non orienter les étudiants.
Alors justement, Julien Fretel, il y a trois points là qui ont été soulevés et sur lesquels je voudrais revenir. Alors l'échec, le crash d'APB, je pense qu'il faut arrêter de le dire en boucle parce que c'est un système qui n'était pas parfait, mais qui a fait ses preuves et qui aujourd'hui semble avoir un meilleur potentiel pour accueillir les étudiants, opérer des tris, pas des sélections, que notre Parcoursup qui est en train de tanguer, c'est la première chose. Mais et alors mettre sans arrêt ce tirage au sort qui concerne moins d'un pour cent des étudiants, je trouve que c'est un petit peu fort de café. Et je me permets de faire un petit pont avec ce qui est en train de se passer avec Parcoursup. Parcoursup va faire du tirage au sort, hein, c'est très drôle, et sans doute plus que ne le faisait APB. Pourquoi ? Parce que je prends l'exemple de mon département. Quand vous avez 6500 demandes pour 65 places, vous avez forcément des gens ex aequo. Même si vous paramétrez les notes, etc. Et donc, il y aura un algorithme pour trier au sort, à nouveau, après des voies de sélection, les étudiants. Donc, voilà, c'est un point important. Deuxième, mon interlocuteur disait que ça allait permettre aux étudiants de choisir. Alors, pas du tout. Pas du tout. Ça va permettre aux étudiants, les lycéens, d'attendre avec beaucoup d'angoisse, notamment pour une raison, parce qu'on va pas s'étendre trop. C'est que nous, on est bien en difficulté pour accueillir ces étudiants car on ne connaît pas leur choix, par exemple. On ne sait pas comment ils ont priorisé. On ne sait pas s'ils préfèrent absolument l'histoire ou la géographie. On ne peut pas le savoir. Avec APB, on le savait. Et ça permettait plus facilement de traiter.
Donc, c'est pas un bon système.
Et je termine sur un point parce que je pense que c'est important. Alors, mon interlocuteur dit que les équipes pédagogiques vont pouvoir se pencher et faire une belle orientation. Alors, nous, on a 6500 demandes pour 65 places. Il est bien évident que nous ne lirons pas une lettre de motivation ou un peu par hasard. Il est bien évident qu'on va demander à un logiciel de paramétrer, de quantifier et au final de faire du tirage au sort pour avoir nos 65 places.
C'est ça, un des éléments, c'est cette lettre de motivation hein, qui vient accompagner la demande d'entrer à l'université et puis la prise en compte de l'histoire scolaire.
Je crois qu'il y a beaucoup de fantasmes sur la lettre de motivation. Ouais. J'ai entendu beaucoup de choses. Toutes les équipes pédagogiques, tous les collègues sont capables de reconnaître la rhétorique d'une lettre de motivation rédigée par un autre collègue.
Alors dites-nous
ou
pourquoi
par un enseignant-chercheur.
C'est un système
donc,
qui vous
je
qui
ne
vous
crois
va.
Pas du tout à l'injustice qui peut produire une lettre de motivation qui serait rédigée par des collègues ou dans des milieux favorisés par rapport à des lettres de motivation qui seraient rédigées dans des milieux de défavorisés.
Oui, je crois qu'on ne sommes pas une lettre de motivation coécrite par un collègue.
Donc, question. Mais je crois que nous ne sommes pas parfaitement à même de reconnaître le style d'un collègue ou d'une officine ou d'autre chose par rapport à une véritable motivation d'un étudiant. Nous avons tous été tuteurs ou directeurs d'études de tel ou tel étudiant. Nous savons quand est-ce qu'un étudiant est motivé ou quand est-ce qu'il ne l'est pas, indépendamment de son expression verbale et de la rhétorique qu'il maîtrise ou ne maîtrise pas.
Dites-nous pourquoi Parcoursup a votre aval.
Je ne suis pas en train de dire que Parcoursup a mon aval.
D'accord.
Je suis pour l'orientation et pour une orientation qui permette d'aboutir à une autre forme de choix à l'entrée à l'université. Je ne connais pas assez bien, personne ne le connaît. J'ai suivi dès le début la formation de Parcoursup.
Je le vois jour après jour fonctionner.
Vous avez beaucoup de chance, chers collègues, mais je sais, parce que j'ai suivi toutes les discussions au ministère, j'étais présent toutes les discussions, y compris avec les informaticiens. Je crois qu'il y a beaucoup de choses de Parcoursup que nous ne mesurons pas et qu'il est difficile de dire ce que vous affirmez en toute bonne foi, évidemment, mais à savoir que sur 66 000 demandes, on fait du tirage au sort. J'ai des échos qui me disent exactement le contraire, c'est-à-dire d'abord 6000 demandes, ça signifie pas que 6000 demandes concernent exclusivement l'UFR, la formation ou la licence dont il est question. C'est 6000 demandes qui seront au fur et à mesure traitées par l'ensemble des filières qui sont concernées par la même thématique.
Et ce jusqu'au mois de septembre, ce qui va nous donner quelque chose de très intéressant à gérer jusqu'au mois de septembre.
Il ne s'agit pas d'une pression de 1 à 100, comme ça semblait, non pas vous vouliez le dire, mais comme on semblait le suggérer, l'idée que 60 à 6000, ça fait une pression de 1 à 100. Il n'y a pas de pression de 1 à 100. Je prends le pari devant vous, devant le collègue, et là, nous avons la certitude de le gagner, de ce pari, qu'à la fin du mois de septembre, il y aura 25 000 inscrits de plus dans l'université française. Je prends le pari, et nous allons constater qu'il n'y aura pas de sélection, parce que quand il y aura 25 000 inscrits de plus, c'est radical.
Je voudrais insister sur un point, puisque vous dites nous, alors j'ai cru comprendre que vous vous associez au travail du ministère. Mais ce qui est important de savoir, c'est d'abord ce Parcoursup, cet instrument a été construit avant que la loi n'ait été votée. Donc c'est une façon quand même assez étrange, vous parliez de représentativité, éventuellement de démocratie, c'est une façon assez étrange d'introduire une réforme à l'université. Et depuis que Parcoursup a été petit à petit outillé, donc moi je l'ai suivi pas à pas, je suis directeur adjoint d'un département, j'ai les données devant moi, il n'a pas cessé de changer de paramétrage. Voilà. Et jusqu'à encore avant-hier, certains de mes collègues étaient au ministère et n'avaient pas de réponse à toutes les questions. D'accord. Alors je pense que quand on recherche la qualité de la science à optimiser et l'efficience, on doit être, à votre place, scandalisé, mon cher collègue.
Je scandalisais peut-être pas le mot, mais il y avait une difficulté objective, vous le savez très bien. Hein. Il y avait une difficulté, je ne suis pas favorable à l'idée qu'on fasse d'abord une plateforme et qu'on fasse après la loi. Ça, c'est quelque chose qui ne convient pas d'un point de vue démocratique et d'un point de vue de la collégialité. Par ailleurs, j'aurais tendance à avoir une vision légèrement différente de la vôtre, si vous permettez, sur la notion de démocratie et de collégialité. La démocratie représentative, c'est la représentation nationale, et elle a un pouvoir que n'ont pas nos conseils académiques, nos conseils scientifiques et nos conseils d'administration, qui ont une autre forme de collégialité, qui exprime une collégialité universitaire et qui ne se positionne pas. Nous ne faisons pas de loi, nous n'avons pas vocation à faire de loi, nous avons éventuellement vocation à appliquer, à suivre ou pas telle ou telle disposition de la loi. Mais c'est la représentation nationale qui vote les lois, ce n'est pas le conseil académique qui
est arrivé après.
Mais je n'étais pas favorable, j'étais favorable à une mise en œuvre de la loi progressive, comme cela sera fait sans doute pour la réforme du bac.
Et éventuellement une consultation.
C'est-à-dire avec une possibilité de voir au fur et à mesure ce que cela pouvait donner en termes d'orientation, de parcours d'accompagnement, de propédéutique, etc., pour savoir exactement sur quoi on allait tomber. Mais il y avait un impératif qui est celui du moment de l'inscription. Soit il fallait garder APB, et comme il y a eu cette énorme polémique sur le tirage au sort et sur l'échec d'APB fin juillet, fin août,
une énorme polémique sur les associations, moins de 1% toutes les étudiants souhaitant aller à l'université.
Mon association ne l'a pas demandé. J'en conviens parfaitement. Toutes les associations syndicales ont demandé l'abandon de Parcoursup au mois de juin dernier.
Bon, je pense qu'on a compris maintenant les raisons de la colère des étudiants. Moi, j'aimerais savoir si cette protestation précise est aussi l'occasion d'exprimer un mécontentement plus général, Julien Fretel.
Alors, là, je vais essayer de m'appuyer sur des travaux de sciences politiques. Ça peut être utile, même si ce que je vais vous dire sur ce mouvement n'est pas de la science exacte, parce qu'il faut du recul. Dans toute action collective, il y a une cause qui est portée ou qui est dénoncée, et puis il y a aussi, et c'est ce qui favorise les raisons de l'engagement, il y a aussi d'autres causes qui viennent s'adjoindre à cette cause principale. Donc pour avoir été à Tolbiac souvent, avoir discuté avec les étudiants, Parcoursup, cette loi sur la sélection à l'entrée de l'université a indigné, mais il y a aussi les conditions de travail à l'université qui indignent, il y a aussi sans doute pour des jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, beaucoup d'inquiétudes sur les transformations du marché du travail, bien sûr, et j'ai envie de dire c'est assez normal et banal.
Est-ce que vous partagez ce point de vue, Claude
Je crois que là, on peut partager ce diagnostic. Je ne crois pas qu'il y ait seulement la question de Parcoursup, de la loi, des textes d'application de la loi, de l'arrêté licence qui se prépare.
Quoi d'autre, alors, selon vous ?
Il y a en effet ces différentes causes qu'a évoqué le collègue, et il me semble difficile de le contester. Les conditions de travail dans les universités ne sont pas idéales. Il y a un accès à l'étude, à la lecture, aux bibliothèques, qui est compliquée. La qualité du travail, y compris pour les enseignants-chercheurs, est souvent difficile à accepter, pas digne d'un pays qui a une tradition universitaire comme la France. Et tout ceci peut se comprendre. Mmh. Mais tout à l'heure, mon collègue a utilisé le mot « scandalisé ». Si je dois être scandalisé, je serais davantage scandalisé par d'autres choses. Et je suis davantage scandalisé par le taux de 96% d'étudiants qui s'inscrivent en première année venant des bacs pro qui ne passent pas en deuxième année et qui partent au bout de 8 mois. Oui. Je suis davantage scandalisé par le taux de 85% d'étudiants des bacs techno qui ne passent pas en deuxième année et dont la moitié abandonne au bout de la première année. Je suis davantage scandalisé par l'échec qui touche les étudiants des milieux non favorisés qui ne chouent pas, comme on dit, à 60%, mais à 80%.
Oui. Actuellement, les chiffres divergent. Hein, c'est parce que moi, j'ai essayé d'en trouver.
Ce sont celles du CNU et du ministère.
Alors moi, j'ai ceux de la direction de l'évaluation et de la prospective de la performance qui disent que 9% des étudiants ne poursuivent finalement pas leurs études et 25% se réorientent vers une autre formation. Qu'est-ce que vous dites, Julien Fretel?
Sans rentrer dans la guerre des chiffres, donc il y a ces éléments chiffrés, mais il y en a aussi d'autres. Il faut savoir que 80% des étudiants qui entrent en licence terminent avec un diplôme. Si on regarde les
étudiants qui entrent en licence,
finissent avec un diplôme, une licence. Et quand on regarde les classements OCDE, voilà, on n'a pas à rougir. Alors, ce n'est pas parfait. Il y a de l'échec, mais on règle pas l'échec par de la sélection sociale. On règle de l'échec par de l'encadrement, par du soutien, par plus de moyens. Moi, je suis enseignant en première année, mais pas seulement, mais en première année, j'ai des effectifs à Tolbiac. Je fais cours dans le gros amphi N. Mon amphi est bourré à craquer en début d'année. Et bien, j'ai que mes mains, mon esprit et mon discours pour essayer de les former. Il n'y a pas suffisamment d'encadrement pour lutter contre cet échec. Il y a des études intéressantes qui disent que même ce qu'on veut voir comme un échec statistiquement, qui peut être un échec aussi social, culturel, intellectuel, globalement, est toujours un apport, permet toujours de donner un peu plus de ressources à un étudiant pour aller chercher du travail que de ne pas le voir entrer à l'université. D'accord. Et là, les travaux de Morin sont vraiment très intéressants là-dessus.
Pardonnez-moi de contester seulement un point, parce que autrement, les diplômés de licence en France, par cohorte, sont de l'ordre de 38,5%. Ce sont les chiffres du ministère, 38,5% par cohorte.
On est loin des 80% de M. Fretel.
Par cohorte, et c'est le chiffre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche que je vous fournis si vous le souhaitez.
Bon, il nous reste une petite minute. Moi, je voudrais savoir quelles sont, d'après vous, les solutions à la crise actuel. Et je commence avec vous. Vous avez une quarantaine de secondes, Claudio Galdesiri.
Plus vite si possible. Je crois à l'orientation. D'abord, je pense qu'il n'y aura pas de sélection. Et nous verrons d'ici 6 mois qu'il y aura plus d'inscrits à l'université qu'il n'y en a eu en 2017. Je crois à l'orientation. C'est la seule manière de aider des étudiants qui n'ont pas les moyens d'accéder aux formations de première année de licence, de acquérir les connaissances et les compétences pour pouvoir avoir une chance de réussite.
Julien Fretel.
Donc, alors, j'espère que tous mes collègues croient à l'orientation, sinon on est quand même assez mal parti. Moi, il me semble qu'il faut remettre à plat, il faut retirer cette loi, il faut vraiment discuter sereinement et s'appuyer aussi sur l'expertise des universitaires. Vous savez qu'on a un corps de métier qui est engagé dans la sociologie de l'éducation, c'est quand même un petit peu dommage de pas le mobiliser. Donc, il faut remettre à plat et il va falloir investir. Hein. Et on sait économiquement que plus on va investir dans l'université, plus on va aussi produire de la richesse, et de la croissance. Donc, il faut pas hésiter, mais il faut prendre un peu de temps. On a beaucoup de propositions et je pense qu'il faut les écouter et dépasser cette loi assez ridicule sur la sélection qui va avoir des effets néfastes.
Allez, on va voir comment la situation évolue. On n'en dira pas plus ce soir. Merci à tous les deux.
Merci.
Claudio
Galdesi,
professeur de langue et littérature de la France médiévale, et Julien Fretel, professeur en sciences politiques, de sciences politiques à l'université Paris 1, Panthéon Sorbonne. Merci également à Florence Pons qui a préparé cette émission, à Tiffany Menta qui la réalise. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec le débat, ce sera lundi prochain avec Guillaume Dodin. Un nouveau journal sur Radio France Internationale dans quelques secondes.